RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi des commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le vice-président encourage la coopération dans l'océan Pacifique. Les relations entre l'Indonésie et l'Égypte sont plus proches avec des valeurs de wasatiyat islamique. Célébrer 65 ans des relations diplomatiques, l'Indonésie et le Mexique organisent une exposition de photos. L'Indonésie doit prêter attention aux étapes du Vietnam. L'Indonésie veut inviter le Forum international d'accréditation halal à encourager l'exportation halal. L'Agence de surveillance des aliments et des drogues de l'Indonésie forme des inspecteurs des aliments de Timor-Leste. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a assisté au forum de coopération parlementaire entre les pays du Pacifique, partenariat parlementaire Indonésie-Pacifique, lundi. L'événement est organisé par le Parlement, participé par 13 délégations parlementaires de 14 pays de la région du Pacifique. La réunion avait pour thème « Développement humain et durabilité maritime », axé sur l'encouragement des ressources humaines et le développement durable des pays maritimes du Pacifique. Dans son discours, le vice-président Yusuf Kalla encourage la connectivité multilatérale dans l'économie bleue ou l'activité économique maritime, car les pays du Pacifique sont les pays maritimes dans l'océan Pacifique.
Konsep blue economy atau blue growth adalah konsep di mana kita
le concept d'économie bleue ou la croissance bleue est un concept dans lequel nous devons considérer trois choses, telles que le revenu des activités maritimes, deuxièmement la conservation et la protection des écosystèmes marins et la communauté sociale, culturelle et caractéristique qui nous relie tous. Nous avons essentiellement des relations culturelles, sociales. Le président du Parlement, M. Bambang Susatyo, comme l'autre, a également exprimé sa gratitude pour la participation des pays du Pacifique dans l'amélioration des coopérations multilatérales, notamment dans le domaine maritime. L'Indonésie, comme un pays maritime avec le plus grand nombre d'îles et la plus large, possède le potentiel en tant que quatrième grande nation et influente dans le monde. L'Indonésie contribue également à divers forums et activités de coopération maritime dans le monde. Les pays participants au partenariat parlementaire Indonésie-Pacifique, entre autres Micronésie, Fidji, Kiribati, Nauru, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Marshall, les îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Polynésie et Nouvelle-Calédonie. L'Indonésie et l'Égypte sont deux pays avec une longue histoire de relations. Les deux pays ont partagé leurs pensées et expériences depuis longtemps liées au développement de valeurs islamiques modérées ou wasatiyat islamiques et de soutenir la lutte pour l'indépendance palestinienne. Cela a été dit par le ministre de la Planification du Développement National de la République d'Indonésie, M. Bambang Brojonegoro, dans son discours lors de la commémoration de la journée de la Révolution égyptienne à la résidence de l'ambassadeur d'Égypte en Indonésie à Jakarta, lundi.
In the international fora, Indonesia and Egypt share a common understanding and position. In the promotion of interest of developing countries.
Dans les forums internationaux, l'Indonésie et l'Égypte ont la même compréhension et la même position dans la défense des intérêts des pays en développement et des valeurs islamiques. L'Indonésie et l'Égypte soutiennent l'indépendance palestinienne. Lors d'une visite au grand chef Al-Assad au sommet de Bogor sur wasatiyat islamique le 1er mai 2018, les musulmans indonésiens ont le privilège d'apprendre du cheikh de manière exhaustive sur la véritable signification de l'islam wasatiyat et de ses principes, et comment cela devient un esprit dans la mise en œuvre de la pensée islamique. Les musulmans indonésiens peuvent contribuer à créer un monde pacifique. Selon M. Bambang, l'Indonésie et l'Égypte continueront à former une nouvelle voie pour une coopération mutuellement bénéfique pour les deux parties. L'un des domaines de coopération entre l'Indonésie et l'Égypte, qui a un rôle important, est le domaine de l'éducation. La célébration du 66e anniversaire de la fête de l'indépendance de l'Égypte à Jakarta lundi 23 juillet a été assisté entre autres par le sous-ministre des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir, le gouverneur de Jakarta, M. Anies Baswedan, le vice-gouverneur de DKI Jakarta, M. Sandiaga Uno, et les ambassadeurs des pays amis. Le ministère indonésien des Affaires étrangères et l'ambassade du Mexique à Jakarta ont organisé une exposition de photos intitulée « Se regarder mutuellement » à la cantine diplomatique du ministère des Affaires étrangères du 23 au 26 juillet. L'exposition de photos est organisée pour célébrer 65 ans des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Mexique. L'exposition de photos présente deux photographes, Desiree Harahap de l'Indonésie et Marcela Tabuada du Mexique. Le directeur général américain et européen du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Ansor, a déclaré à l'ouverture de l'exposition de photos que la photo était un média d'art approprié pour décrire la condition humaine qui existe dans les deux pays. C'est une exposition unique, les photos. Nous savons que la photographie est la façon la plus accessible et la plus démocratique de créer de l'art. Tout le monde a accès pour faire des photos. La photo est un médium artistique qui est le plus capable de capturer les conditions humaines. Je dois dire qu'elle est spéciale car d'après moi, les deux personnes viennent de deux pays et pour eux, chaque pays correspond les uns aux autres. Et bien sûr, il y a aussi interculturel. L'ambassadeur du Mexique en Indonésie, Armando Alvarez, qui est également présent à l'ouverture de l'exposition, a déclaré que pendant 65 ans, l'établissement des relations amicales entre les deux pays qui continueraient d'avancer ensemble. Il espère que les photographes qui sont exposés à l'exposition deviennent le témoin de la croissance et de la progression des deux pays. À travers leur voyage, les deux photographes donnent une image dans leurs photos, la similitude dans la vie quotidienne des personnes en Indonésie et au Mexique. Cette exposition de photos reflète aussi les aspects de la vie quotidienne qui est différent de l'Indonésie et du Mexique, comme la tradition, la vie des femmes, les enfants et les familles, ainsi que les zones urbaines et rurales. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie doit encore accroître la compétitivité face au commerce mondial à l'avenir, y compris en observant les mesures du Vietnam pour que l'Indonésie ne soit pas laissée de ses pays voisins. Dans une déclaration écrite reçue par Antara à Jakarta lundi, l'ambassadeur indonésien au Vietnam, Ibnu Hadi, a déclaré que le Vietnam avait maintenant progressé dans plusieurs domaines commerciaux et avait même battu l'Indonésie sauf en caoutchouc. Le Vietnam est un pays avec la croissance économique la plus rapide en Asie du Sud-Est et s'est fixé son objectif de devenir un pays développé en 2020. Les données de l'ambassade d'Indonésie à Hanoï traitées par le Bureau de statistiques générales du Vietnam en 2018, les données de BPS et de la Banque d'Indonésie montrent que le commerce extérieur du Vietnam au premier semestre 2018 a atteint 225,01 milliards de dollars américains ou en hausse de 13,69% par rapport à la même période en 2017 de 197,90 milliards de dollars américains. Le commerce du Vietnam à l'étranger a subi un excédent de 3,36 milliards de dollars américains. Pour encourager l'exportation de produits halal dans tout le monde, l'Indonésie invitera le Forum international d'accréditation halal, ou IHAF, qui devient la porte d'entrée de l'exportation de produits halal dans le monde. C'est ce qu'a déclaré lundi le chef de l'Agence mondiale de normalisation, M. Bambang Prasetyo, à Jakarta. Il a déclaré sur la base de l'enquête de la passerelle économique mondiale islamique, le nombre de musulmans en 2020 va augmenter et on peut s'attendre à atteindre 20% de la population mondiale totale. Cette condition est prévue d'encourager le commerce de produits halal du monde. On espère qu'en invitant IHAF, l'Indonésie pourra exporter le produit halal vers d'autres pays, non seulement les pays islamiques, mais aussi d'autres pays qui ont beaucoup de musulmans. Bambang a également déclaré que l'initiative d'inviter IHAF continue d'être menée et a espéré que la coopération serait réalisée en 2018. Plus tard, l'Agence nationale de normalisation coopérait avec IHAF par l'intermédiaire du Comité national d'accréditation. L'Agence de surveillance des aliments et des drogues, ou BPOM, de la République d'Indonésie coopère avec l'autorité d'inspection et de surveillance des activités économiques, de l'assainissement et de l'alimentation de la République démocratique du Timor oriental, ou AIFAISA, sous la forme d'une formation d'inspecteurs des aliments. Cette formation devrait augmenter la capacité de l'appareil ainsi que le développement et la réglementation du système de sécurité alimentaire dans le monde. C'est ce qu'a déclaré le directeur de BPOM de l'Indonésie, Penny Lukito, dans sa déclaration écrite à Jakarta lundi. Il a indiqué que la formation organisée par BPOM indonésien pour la première fois dans le cadre de la coopération Sud-Sud devait soutenir les activités de la politique étrangère de l'Indonésie. BPOM espère partager avec d'autres pays en voie de développement à travers une assistance dans divers domaines, en particulier la surveillance des médicaments et des aliments. Lors de la visite de travail du chef de BPOM de l'Indonésie au Timor oriental en 2017, BPOM a exprimé sa volonté d'établir une coopération plus concrète avec Timor-Leste par la coopération dans la surveillance alimentaire et la sécurité alimentaire, les laboratoires des médicaments, la standardisation des médicaments et la coopération dans la supervision de la distribution de médicaments aux frontières de l'Indonésie et du Timor-Leste. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email foiquiz2018@voinews.id. Je répète, foiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'élection au Pakistan ». L'atmosphère chaude du Pakistan aujourd'hui n'est pas seulement due à l'été, mais aussi à la hausse du climat politique avant des élections générales. Plusieurs incidents d'attentats à la bombe et même des cas légaux sont devenus un moyen de rivaliser dans cette élection. Des attentats à la bombe ont tué 149 personnes à l'approche des élections et d'autres attaques ont tué des candidats qui participeraient aux élections, même au niveau local. Une autre chose qui s'est produite était un verdict à un candidat fort du Parti de la Ligue musulmane du Pakistan, ou PMLN, qui est devenu le parti de l'ancien premier ministre Nawaz Sharif. Le verdict est prétendument sous la pression de certains partis au Pakistan. Sharif et sa fille risquent des peines de prison de 10 et 7 ans pour des affaires de corruption. En outre, une décision de justice au Pakistan a également imposé l'interdiction politique à vie de Sharif. Au Pakistan, l'armée a une forte influence dans l'histoire du pays. La moitié des 71 ans du pays était autrefois gouvernée par l'armée. Certains partis soupçonnent l'armée de faire pression sur les médias et les politiciens. Bien sûr, l'armée a nié et l'armée n'a pas de guerre directe lors des élections. Cette élection est une bataille entre PMLN et le parti l'opposition Tehreek e Insaf, dirigé par Imran Khan. Un autre parti qui participera aux élections est le Parti du peuple pakistanais, dirigé par Bilawal Bhutto Zardari. Bilawal est le fils du premier ministre Benazir Bhutto, qui a été tué dans une attaque. Pour être en mesure d'occuper le siège du Premier ministre, le Parti populaire doit rivaliser avec l'un des partis qui est un concurrent dans cette élection. Nous espérons que les élections générales au Pakistan se déroulent bien et qu'elles occuperont finalement les personnes vraiment choisies par le peuple pakistanais pour devenir le leader dans le pays. Les partis qui ont été confrontés pendant les élections devraient prioriser les intérêts communs que les intérêts des groupes et de leurs partis respectifs. L'appui au Pakistan est essentiellement pour que le Pakistan puisse jouer un rôle dans la réduction des tensions dans les pays voisins, l'Afghanistan et la région de l'Asie du Sud. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement première bébé éprouvette le 25 juillet 1978. La petite Louis Brown voit le jour à l'hôpital de Dame en Angleterre. Cette petite fille de 2,688 kg est le premier bébé au monde né par la fécondation in vitro grâce à la méthode mise au point par le docteur Robert Edwards. La technique consiste à provoquer une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde dans un milieu de culture favorable. L'embryon qui en résulte est alors introduit dans l'utérus de la mère et se développe normalement. La fécondation in vitro permettra à des milliers de couples souffrant de stérilité d'avoir des enfants. Près de 4 ans après Louis Brown naîtra le premier bébé éprouvette français Amandine. En Indonésie, le premier bébé éprouvette nommé Nugroho Karyanto est né le 2 mai 1980. 8 à l'hôpital pour les enfants et la maternité Harapan Kita de Jakarta par une équipe de médecins dirigée par Sudraji Sumapraja. L'autre information est sur le premier Dali et Elu. Koshiril Rahman Narayana, né le 27 octobre 1920 et mort le 9 novembre 2005, est un homme d'État indien, le premier Dali à devenir président de la République de l'Inde du 25 juillet 1997 au 25 juillet 2002. Il a obtenu une maîtrise en littérature anglaise à l'université de Travancore et travaille comme journaliste pour les journaux de Hindu et Times of India 1944 à 1945. En 1945, il part étudier les sciences politiques à Londres et obtient un diplôme de la London School of Economics. De retour en Inde, il intègre le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Nehru. Il occupe des postes de diplomate dans plusieurs ambassades indiennes, Rangoon, Tokyo, Londres, etc. Puis, est ambassadeur en Thaïlande de 1967 à 1969 en Turquie, de 1973 à 1975 et en République populaire de Chine de 1976 à 1978. À la demande d'Indira Gandhi, il se présente comme député du Kerala où il est élu trois fois de suite, 1984, 1989 et 1991, en tant que membre du Parti du Congrès. Le 21 août 1992, il devient vice-président sous la présidence de Shankar Dayal Sharma. Le 17 juillet 1997, il est élu président de l'Inde. Sa présidence a été marquée par les sanglantes émeutes intercommunautaires au Gujarat en 2002, où des milliers de musulmans sont massacrés. Il est mort dans pneumonie le 9 novembre 2005 dans un hôpital militaire à New Delhi. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Le Concorde s'écrase sur Gonesse le 25 juillet 2000. À 16h44, un Concorde à destination de New York s'écrase sur un hôtel de Gonesse dans le Val d'Oise, 2 minutes seulement après son décollage de l'aéroport de Roissy. les 109 passagers décèdent dans l'accident ainsi que 4 employés de l'hôtel. L'enquête technique révèle qu'une roue de l'appareil était endommagée au décollage pour un lamelle métallique tombé de notre avion sur la piste. Les débris de pneus ont provoqué la rupture d'un réservoir où le feu s'est déclaré. Les vols des 12 Concorde naviguant sous pavillon français et britannique sont suspendus. Ils ne reprendront que le 7 novembre 2021. L'accident de Gonesse est le premier crash d'un Concorde depuis le vol inaugural le 2 mars 1969. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, maintenant nous vous présentons mon Indonésie et pour le titre Offre excédentaire sur le marché du ciment, le ministère de l'Industrie encourage la consommation nationale de ciment. Le ministre de l'Industrie de la République d'Indonésie, Airlangga Hartarto, a déclaré que le marché intérieur du ciment a connu une offre excédentaire. Le ministre de l'Industrie a estimé que la capacité de production de l'industrie du ciment domestique a atteint 100 millions de tonnes, tandis que sa consommation est d'environ de 60 à 68 millions de tonnes. Dans son communiqué de presse à Jakarta dimanche, le ministre Airlangga Hartarto a déclaré que le gouvernement encourage constamment l'augmentation de la consommation de ciment sur le marché domestique à travers plusieurs projets en cours, notamment les projets annoncés par le gouvernement, comme par exemple le programme de développement pour l'infrastructure, l'immobilier et le secteur manufacturier. Par conséquent, le ministère de l'Industrie a coordonné avec d'autres ministères connexes tels que le ministère des Travaux publics et du logement public ainsi que d'autres institutions. Pour tenter de résoudre le problème, le ministère de l'Industrie a déguisé les industries nationales qui utilisaient clinker comme matière première pour renforcer le potentiel de la production locale. Cette tentative vise à réduire l'importation de produits similaires. Le ministre Airlangga Hartarto a également parlé de la mise en œuvre des droits anti-dumping en tant qu'autre mécanisme pour résoudre le problème. Les droits anti-dumping peuvent être appliqués par le gouvernement lorsque les importations augmentent et que les prix des produits importés sont moins élevés que ceux des produits nationaux. Le ministre Airlangga Hartarto a souligné que les politiques étaient la forme de l'engagement du gouvernement à maintenir le climat des affaires afin de rester favorable. Un climat des affaires favorable favorisera la croissance et l'avancement de l'industrie nationale du ciment. Outre la formulation de politiques visant à maintenir un climat favorable aux affaires, le ministère de l'Industrie a également encouragé la diversification des produits fabriqués à partir de ciment ainsi que l'obligation d'appliquer la norme nationale indonésienne pour le ciment. En outre, il encouragera également l'industrie du ciment dans le pays à saisir les opportunités de marché d'exportation, même si les bénéfices d'exportation seront plus faibles. C'est ce qu'a affirmé le ministre Airlangga Hartarto, compte tenu le Vietnam connaît actuellement la même situation de production excessive de ciment. L'Indonésie elle-même possède des usines de ciment au Vietnam. Pendant ce temps, le ministère de l'Industrie a rappelé à toutes les parties dans les industries de ciment nationales pour établir l'écosystème de l'innovation pour augmenter l'excellence concurrentielle au milieu de la concurrence rapide, que ce soit dans le niveau régional ou international. Cette innovation peut générer des avantages pour les entreprises car elle est plus efficace, en particulier pour résoudre l'offre excédentaire dans la production nationale de ciment. Selon le ministre Airlangga Hartarto, la durabilité du développement industriel stratégique comme les cimenteries devrait devenir une préoccupation car elle produit des effets multiples pour l'économie régionale et nationale. Les effets comprennent l'absorption des main-d'œuvre et l'autonomisation des petites industries à base de ciment pour aider leur développement. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email foiquiz2018@voinews.id. Je répète, foiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Serge Rita, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et Ma Langue.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons un objet touristique à Sukabumi, Jawa West, à savoir le Géoparc Ciletuh. Restez à l'écoute. Le Géoparc Ciletuh n'est pas familier à nos oreilles. Cependant, le Géoparc Ciletuh est en cours d'évaluation par les évaluateurs de l'UNESCO en tant que géoparc mondial. À cause de cela, si on le sélectionne, le Géoparc Ciletuh deviendra officiellement géoparc mondial ainsi que le site de patrimoine naturel du monde qui est protégé. Cela rendra le nom de l'Indonésie plus connu dans le monde sur la beauté et la richesse de sa nature. Chers auditeurs, le Géoparc Ciletuh est situé à Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Java Occidental. Vous pouvez accéder au Géoparc en utilisant le transport terrestre. Pour aller à l'objet touristique, nous vous proposons d'utiliser une voiture de location ou une voiture privée qui utilise une machine à quatre roues motrices car la route est très endommagée. Le voyage de Jakarta prend environ 7 à 8 heures. Le Géoparc Ciletuh est très large. La région comprend la grande baie Ciletuh qui a des dizaines de kilomètres de lignes côtières. Le touriste est libre de choisir quelle plage qui convient à la baignade, commençant de la plage de la zone touristique de Cimas jusqu'à la fermeture du district de Jampang, Sukabumi. En plus de la plage, les touristes peuvent également nager à la cascade. Il y a plus de 8 cascades qui ont été ouvertes pour les touristes, mais vous devriez faire attention en nageant à la cascade parce qu'il y a quelques cascades qui ont le courant très lourd, telles que la cascade Dok-Dok et la cascade de Cikaso. Pour aller à ces cascades, le touriste devrait faire du trekking en passant des abreluks sur Ruang. Une autre activité qui peut être menée au Géoparc Ciletuh, à savoir profiter de la beauté sous-marine. Pour la profiter, les touristes peuvent faire la plongée en apnée à l'endroit des sables blancs de l'île de Kunti. L'emplacement peut être trouvé en marchant d'environ 10 minutes de la lèvre de la plage principale du Géoparc. La gestion de la plongée en apnée est Balawisata ou l'agence de sauvetage de Wisata Tirta. Balawisata fournit des installations de location de matériel avec des frais de 100 000 rupiah par tuba avec un délai de 45 minutes. Chers auditeurs, fatigués après avoir fait des activités au Géoparc Ciletuh, vous pouvez rester plus longtemps tout en profitant de la beauté de sa nature. Il y a un terrain de camping pour installer la tente pour passer la nuit avec seulement 20 000 roupias. Avec le prix qui est relativement bon marché, vous pouvez dormir en étant entouré de paysages incroyables, en commençant par la plage, la rizière, le mont, etc. En outre, vous pouvez également regarder le lever de soleil exotique. C'est Ritor, c'était notre programme pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est jam kerja. Je répète, jam kerja. En français, les heures de travail. Allons-y. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Jam kerja » en français « Heure de travail ». Dans la maison de Joko, Tony et Enda parlent du travail de Joko. Tony, di sini biasanya mulai kerja jam berapa? Enda, rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore. Tony, istirahat jam berapa? Enda, istirahat jam 12 sampai jam 1. Tony, oh, jadi istirahat 1 jam ya? Enda, iya. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, jam kerja, je répète, jam kerja, en français, heure de travail. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et vous pouvez les répéter après moi. Di sini, biasanya mulai kerja jam berapa? Di sini, biasanya mulai kerja jam berapa? Qui signifie, ici, d'habitude, on commence à travailler à quelle heure? Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore. Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore. Qui signifie, d'habitude, on commence à travailler à 7h30 et on va terminer à 16h. Istirahat jam berapa? Istirahat jam berapa? Qui signifie, la pause à quelle heure? Istirahat jam 12 sampai jam 1. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Qui signifie le temps de pause est de midi à 1h. Oh, Jadi istirahat 1 jam ya? Oh, jadi istirahat 1 jam ya? Qui signifie? La pause d'une heure, hein? Dans le dialogue, vous écoutez, di sini, biasanya mulai kerja jam berapa? Le mot biasanya est un adverbe qui montre l'intensité ou la fréquence. Et voici les adverbes qui montrent l'intensité ou fréquence, en commençant par le plus fréquent. Comme selalu, selalu, en français toujours, biasanya, biasanya, en français d'habitude, sering, sering, en français souvent, kadang-kadang, kadang-kadang, en français parfois, jarang, jarang, en français rarement, et tidak pernah, tidak pernah, en français jamais. Voici l'exemple de l'utilisation des adverbes. Par exemple, saya selalu berangkat kerja pukul 7. Saya selalu berangkat kerja pukul 7, qui signifie je vais toujours au travail à 7h. Mereka biasanya pulang kerja jam 4 sore. Qui signifie d'habitude il rentre à 16h. Aku sering pergi ke sekolah jam 7. En français, je vais souvent à l'école à 7h. Dia kadang-kadang pulang jam 10 malam. En français, il rentre parfois à la maison à 10h. Tony jarang datang terlambat. En français, Tony arrive rarement en retard. En fait, il y a encore des autres adverbes, mais le mot selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, et tidak pernah sont les adverbes le plus souvent utilisés dans la conversation quotidienne. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Di sini biasanya mulai kerja jam berapa?
Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore.
Kalau istirahat, jam berapa?
Istirahatnya jam 12 sampai jam 1.
Oh, jadi istirahat 1 jam ya?
Iya.
Après avoir écouté la conversation, dont le titre est « Jam kerja », en français « Heure de travail », je vais vous donner un exercice en utilisant deux mots que nous avons déjà appris. L'exercice est « Décrivez votre travail en montrant votre nom, votre profession, votre bureau, vos heures de travail, le jour, les heures et la pause de travail. » Par exemple, nama saya Andi. Saya seorang wartawan bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Waktu bekerja saya hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan jam istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email avoi@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un euro gagnant. Et le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
C Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve dans la rubrique du magazine musical avec moi, Tiwi. Aujourd'hui, je vais vous donner les chansons de Putri Ayu. Et pour commencer l'édition d'aujourd'hui, je vous présente l'une des chansons de Putri Ayu s'intitulant « Harus Berakhir ».
Cintaku
C'est notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.